Rosny est né. Le caillou. Votre histoire de montre, fit mélancoliquement Verceuil, me fait songer à mon ou à notre histoire, car elle s'étend aussi sur plusieurs générations. Mais, par exemple, elle n'a aucun rapport avec l'influence heureuse ou néfaste des objets familiers. Elle montre seulement l'inconvénient des énigmes posthumes. Quand mon bisaïeul mourut, il laissa à mon grand-père une petite boutique de librairie près de l'Institut et environ 400 pistoles d'argent comptant. Il laissait encore une cassette qui contenait des souvenirs de ses voyages, parmi lesquels des gris-gris, des estampes, des armes de médiocre valeur, des briquets, des médailles, des monnaies de cuivre, des coquillages et quelques cailloux. Et une note était jointe à la cassette qui recommandait de garder tous ces objets avec un soin religieux et qui se terminait par ces mots « Ton salut est dans cette boîte ». Et il y avait aussi en exergue, avec diamants, langue et latin, partout on trouve son chemin. Mon bisaïeul était d'humeur bizarre et facétieuse, et cette particularité de son caractère, qui eût dû faire réfléchir le fils, fut précisément ce qui empêcha celui-ci de prêter aucune attention à la note. Mais, porté de nature à respecter les volontés des morts, il mit la cassette en lieu sûr et il n'y songea plus. Il mena une existence agitée par des rêves de fortune. La subtilité de ses conceptions, après avoir failli le mener où il aspirait, le mit enfin sur le pavé et même le conduisit à la prison pour dette. Auparavant, il avait pu confier la cassette à un ami. Il mourut tristement la veille de la Révolution de 48, ne laissant d'autre héritage que l'inutile coffret. À la note primitive, il avait joint une pressante recommandation personnelle. Son fils, non moins respectueux que lui de la volonté des morts, garda religieusement le dépôt. Sa vie aussi fut très pénible. D'humeur vagabonde, il passa sa jeunesse en divers pays. Il courut successivement les régions où règne le Grand Turc, la terre d'Iran, l'Égypte, et poussa jusqu'à l'Inde et aux îles Malaises. Il revint ensuite en France, léger d'écu, ayant perdu ce beau feu d'espérance qui resplendissait en lui à son départ. Malgré sa misère de partager ses jours avec une jeune fille qu'il adorait et qui par le fait lui donna quelques années de bonheur, mais la malchance qu'il avait poursuivi son père ne lui laissa pas non plus un long répit. Et à la suite d'un accident, sa femme se trouva en danger de mort. Un soir, le médecin qui la soignait déclara qu'elle n'atteindrait pas le matin. Si une opération délicate et difficile n'était pas faite avant quelques heures, il conseilla d'appeler le grand chirurgien. La subtilité de ses conceptions, après avoir failli le mener où il aspirait, le mit enfin sur le pavé et même le conduit à la prison pour dette. Auparavant, il avait pu confier la cassette à un ami. Il mourut tristement la veille de la Révolution de 48, ne laissant d'autre héritage que l'inutile coffret. À la note primitive, il avait ajouté une pressante recommandation personnelle. Son fils, non moins respectueux que lui de la volonté des morts, garda religieusement le dépôt. Sa vie aussi fut très pénible. D'humeur vagabonde, il passa sa jeunesse en divers pays. Il connut successivement les régions où règne le Grand Turc, la terre d'Iran, l'Égypte, et poussa jusqu'à l'Inde et aux îles Malaises. Il revint en France, léger d'écus, ayant perdu ce beau feu d'espérance qui resplendissait en lui à son départ. Malgré sa misère, il n'eut son pas pu résister au désir de partager ses jours avec une jeune fille qu'il adorait et qui, par le fait, lui donna quelques années de bonheur. Mais la malchance qui avait poursuivi son père ne lui laissa pas non plus un long répit. À la suite de l'accident, sa femme se trouva être en danger de mort. Un soir, le médecin qui la soignait déclara qu'elle n'atteindrait pas le matin si une opération délicate et difficile n'était pas faite avant quelques heures. Il conseilla d'appeler le grand chirurgien, le seul à son avis, qui réussirait infailliblement. Et mon père habitait Versailles. Il craignit d'arriver beaucoup trop tard en allant lui-même à Paris. Il envoya un télégramme rédigé en ces termes pathétiques. Mais la réponse ne fit pas attendre. Elle était brève et péremptoire. Envoyez 1 000 francs, sinon impossible. Il n'y avait pas 100 francs à la maison. La mort dans l'âme, mon père télégraphia à elle un autre prince de l'art, connu pour la générosité de ses sentiments, mais qui, par malheur, n'était pas très compétent pour faire l'opération trop spéciale dont il s'agissait. Il répondit à l'appel, montra de l'inquiétude et de l'hésitation, mais devant l'imminence du péril, il se décida. L'opération réussit mal. Le lendemain, ma mère était morte. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, poursuivit Verseuil, savent que j'ai eu une jeunesse misérable. Pour obtenir mon brevet d'ingénieur, j'ai dû manger de la vache la plus enragée, passer des nuits innombrables à travailler au lieu de dormir, et avaler toutes les humiliations que le vide de l'escarcelle et la laideur des défroques infligent à l'étudiant pauvre. Et dans cette vie infernale, il y eut un éblouissement. Tandis que je me préparais à mes derniers examens, le fils du banquier Ripon se trouva parmi quelques cancres que l'on me chargeait de bourrer de mathématiques ou de chimie. Ripon était de nature bienveillante. Je ne lui déplus point. Il me retenait souvent à dîner et me questionnait avec intérêt. Mon malheur vint que je vis de trop près Mademoiselle Hélène Ripon, belle et séduisante comme cette Consuelo Vanderbilt qui est actuellement duchesse de Marlborough. Elle était douce, rêveuse, enthousiaste, et je pus résister à l'enchantement. Je l'aimais d'un amour que les années n'ont pu attendre pour éteindre. Elle vit ma triste passion Et loin d'en demeurer choqué, cette ravissante créature la partagea, si bien que Ripon, un beau matin, me remettait un chèque en paiement de mes leçons et me tenait ce langage. « Mon cher ami, je ne désirais pas un autre gendre que vous. Mais vous êtes atteint d'un mal actuellement irréparable. Vous êtes pauvre. Et je veux, moi, que le mari de ma fille soit au moins millionnaire. Oh, non pas par intérêt, quoique je puisse voir l'argent comme il est juste, mais parce que je crois que le bonheur matrimonial exige des apports proportionnels. Eh bien, demain, Hélène part en voyage. Vous ne la reverrez jamais. À moins que notre bon Dieu Plutus ne vous prenne en affection. Allez, adieu. Vous emporterez d'ici la sympathie de tout le monde, et la mienne en particulier. Vous êtes jeune, vous êtes énergique, vous oublierez. Je n'oubliais point. La mélancolie de cet amour, déjà, ne me quittait qu'avec me quitterait qu'avec l'existence. Je me réfugiais dans l'accomplissement de mes devoirs, qui furent âpres et rudes, et j'atteignis ainsi, vaille que vaille, ma 40e année. À cette époque, lors d'un déménagement, la cassette de mon bisaïeul excita ma curiosité. Je l'ouvris, je jetai un coup d'œil sur ces trésors falots, puis je remis le billet que vous savez. Le proverbe de l'exergue me frappa, pour une raison en apparence futile. Est-ce par erreur ou avec intention qu'on avait écrit « diamant » au lieu de « argent » Car vous savez que le proverbe véritable est ainsi conçu, avec « argent » langue et latin, partout on trouve son chemin. Alors je le sais que l'idée baroque traversa ma cervelle, mais je me mis à faire du contenu de la cassette un inventaire minutieux, un inventaire de savants et de collectionneurs. Les estampes étaient sans valeur, les grilleries quelconques, les pièces de monnaie et les médailles prises au hasard, et les cailloux se composaient de quartz et de silex, sauf un échantillon d'aspect terreux qui attira mon attention. Celui-là, je lui fis subir une analyse complète, et détachant précautionneusement sa gangue, gangue d'ailleurs artificielle, je reconnus un magnifique diamant blanc, un diamant dont j'évaluais la valeur à 3 millions de francs, au minimum. Et de fait, j'ai réussi à le vendre 4 millions au premier marchand de pierre d'Amsterdam. Ma découverte me rendit d'abord ivre de mélancolie et de regret. Le tableau du malheur de ma famille et de moi-même ne cessa de m'apparaître. Pendant toute la soirée, je méditais avec une profonde amertume à l'ironique fatalité. Je tournais et retournais mille fois ce caillou informe dont nous n'avions pas soupçonné les vertus pendant 3 générations et qui eût pu éviter la prison à mon grand-père, conserver la vie à ma mère et m'assurer une adorable compagne. Je mentirais en disant que je maudis ma fortune subite. Car après tout, je savais qu'elle soulagerait mon âge mûr et ma vieillesse, me permettrait de faire le bonheur autour de moi, mais je ne puis m'empêcher d'éprouver un peu de rancune contre le bisaïeul trop amateur d'énigmes.